Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Un peuple instruit, c'est un peuple. C'est un peuple totalement développé.
Totalement développé.
Instruit et développé, c'est vrai, l'instruction précisément, c'est l'un des fleurons de la révolution cubaine, des jeunes diplômés, voire surdiplômés. Oui d'accord, mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et diplômé, d'accord, mais pourquoi faire? Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde, ce soir sous les radars avec de la corruption combattue en Bulgarie. Vous verrez comment un président veut être président à vie, c'est en Arménie et Vincent Cassel au Brésil, étonnant. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter en Allemagne avec des rappeurs. Et en Israël, qui célèbre ses 70 ans et déterre un secret de famille traumatisant pour le pays, c'est Étienne Monin qui vous racontera ça dans un instant. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger en Turquie avec Erdogan qui avance les élections présidentielles et législatives. Mais tout de suite, puisque Cuba est dans l'actualité du jour, on en profite nous pour aller chercher aussi chez les voisins, Cuba, Rio, Caracas et ailleurs. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Les yeux forcément sur le continent sud-américain ce soir, du Brésil à Cuba et au-delà, où les choses changent en ce moment pour le meilleur, pour le pire, on verra ça ensemble. Bonsoir Christophe Ventura.
Bonsoir.
Chercheur à l'IRIS, Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine, puisque Cuba c'est l'actualité du jour, bah on y viendra à la fin. Je voudrais qu'on aille d'abord au Brésil, si vous le voulez bien, où Lula lui est toujours en prison, ça fait une semaine maintenant, ce qui permet peut-être de réfléchir un peu. L'audience pour sa sortie a d'ailleurs été repoussée. Christophe Ventura, est-ce qu'après le choc des images, on sait que de toute façon, il va rester en prison, cet homme-là, même s'il lui reste des recours, parce que s'il ressort, la situation deviendra encore plus compliquée. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'achemine ?
Bah aujourd'hui, au Brésil, on est face à un scénario tout à fait inédit, à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan politique. Scénario, du coup, qui est très difficile, en réalité, à entrevoir avec clarté. Le plus probable, et de loin, c'est qu'effectivement, l'ancien président Lula reste en prison, puisque aujourd'hui, on voit pas bien, sur le plan juridique, comment les choses pourraient évoluer avec un appareil judiciaire qui s'est déjà quand même largement mobilisé contre lui, y compris le tribunal suprême qui a déjà qui avait ôté ce qu'on appelle l'habeas corpus, qui était en fait le fait qu'il n'aille pas en prison en attendant que tous ses recours soient épuisés, qui va devoir in fine décider si la condamnation de Lula est constitutionnelle ou pas. On ne sait pas quand ça interviendra. Bref, il va y avoir une bataille juridique, mais qui laisse quand même peu de chance, à une surprise quant à la condamnation de Lula pour 12 ans. Et sur le plan politique, c'est toute la question, c'est est-ce que Lula va depuis la prison pouvoir continuer à jouer un rôle important et peser sur la séquence qui s'ouvre au Brésil et qui devrait nous amener à l'élection présidentielle d'octobre si elle est maintenue.
Christophe Ventura, on disait effectivement que beaucoup de choses étaient en train de bouger, pas seulement au Brésil mais aussi sur l'ensemble du continent. Est-ce que vous avez le sentiment que on parle d'un déni de justice concernant Lula et au-delà de ça même un déni de démocratie qui peut-être dit des choses importantes sur l'état du Brésil aujourd'hui ?
Oui, absolument. Je crois qu'il faut resituer le cas Lula, qui est évidemment tellement emblématique. On parle quand même d'un des géants politiques de l'Amérique du Sud du XXe siècle, quelqu'un qui a fini sa présidence en 2010 avec une popularité inégalée en Amérique latine. Il faut la resituer dans une crise qui me semble beaucoup plus large, en fait, que celle simplement de Lula. C'est une crise démocratique que vit ce pays, avec des institutions étatiques, mais aussi judiciaires, et puis aussi un rôle, d'ailleurs, médiatique qui n'est pas anodin dans tout ça, et qui fait que tout le système en fait au Brésil est sous tension, et aujourd'hui c'est un système qui est au bord d'un craquement et qui va certainement déboucher sur autre chose. Mais on voit bien que tout ce qui s'est passé depuis l'affaire Lavajato en 2014, de l'affaire de lutte contre la corruption qui a déjà abouti à la décapitation finalement du Parti des Travailleurs de Lula, et puis qui met en prison aussi une bonne partie des dirigeants de la droite au pouvoir, et même le président actuel est sérieusement visé par cette enquête, on voit bien que de cela, il n'y a aucune résolution en fait de la crise politique au Brésil qui ne fait que s'approfondir et créer de la polarisation dans la société. Et c'est ça le danger du Brésil pour les mois qui viennent.
Alors, mais Christophe Ventura, ça veut dire quoi les craquements dont vous parlez ? On a vu les gens descendre dans la rue. D'abord, on a vu ceux qui étaient pro-Lula et aussi anti-Lula descendre. On a vu aussi descendre des gens dans la rue au moment de la mort de l'activiste Marielle Franco à Rio, par exemple. Est-ce qu'il y a une réelle crainte que le choix soit fait vers un régime plus autoritaire? En gros, est-ce que Lula en prison, c'est la fin de la gauche aussi au Brésil? Est-ce que ça veut dire ça également?
Alors, je vais commencer par la fin. L'emprisonnement de Lula pour la gauche, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est clair, parce que d'abord, elle n'a pas d'alternative à Lula, elle n'a pas construit d'alternative à Lula réellement. Ces dernières années, il n'y a personne qui émerge comme étant capable de reprendre l'héritage de Lula. Sa popularité est inégalée. Les gens au Brésil, au plus profond de ce pays, dont il faut rappeler qu'il est quand même 16 ou 17 fois plus grand que la France, les gens connaissent Lula, mais la population, le peuple rural, etc., ne connaît pas les autres ou très mal dirigeants ou etc. de ce parti. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Et puis il y a aussi un problème dans le fait que le projet qu'a porté Lula aujourd'hui doit être revu et repensé à l'aune à la fois de tout ce qui s'est passé avec les affaires de corruption, combiné la crédibilité du parti, etc., de la gauche. Et puis aussi une gauche qui avait mis en place un projet dans les années 2000 qui ne peut plus aujourd'hui continuer d'être tel qu'il était dans les conditions actuelles qui sont plutôt celles, d'une crise économique internationale qui affecte très très fortement la région.
Et est-ce que c'est pas là effectivement un problème pour tous les pays sud-américains finalement qui ont tous engagé au début, je pense au Venezuela également d'ailleurs, une politique d'urgence sociale qu'on n'a plus les moyens de mener aujourd'hui? Est-ce que tout le monde n'est pas finalement dans une situation presque similaire?
Si, c'est un problème qui touche l'ensemble des gouvernements latino-américains. Alors évidemment, on va dire de gauche ou progressiste, peu importe la formule, parce qu'ils ont été majoritaires en Amérique latine jusqu'en 2010-2012, mais aussi les autres gouvernements sont touchés par le même phénomène, c'est-à-dire le fait que ces pays-là sont tributaires, largement tributaires, de leurs exportations de matières premières sur les marchés internationaux. Or, c'est ces marchés internationaux qui déterminent finalement la santé économique de la région, et lorsqu'on a connu des années de récession au long des années 2010, qui se sont traduits en Amérique latine par deux années fortes de récession en 2015 et 2016, c'est tous les pays de la région qui sont impactés par, finalement, les limites de ce modèle de développement-là.
Et alors, du coup, est-ce qu'il y a une tentation autoritaire, quand même? Alors, je pense effectivement à ce qui peut se passer s'il y a des élections au Brésil, mais je pense aussi à ce qui va se passer lorsqu'il y aura des élections assez proches au Venezuela. Est-ce qu'il existe une tentation autoritaire qui peut toucher à nouveau une bonne partie de ce continent-là ou pas?
Alors, oui et non, parce que chaque situation nationale est vraiment différente. Les configurations sont très différentes et mériteraient à chaque fois d'être vues au cas par cas, parce qu'on peut pas comparer exactement ce qui se passe au Venezuela ou au Brésil ou au Pérou, c'est encore une autre histoire. Mais si vous voulez, ce qu'on voit et qui est commun à tous ces pays-là, c'est qu'effectivement, le fait que ces pays-là aient traversé et traversent encore une crise économique et sociale très importante avec des gestions de cette crise qui n'ont pas été opérationnelles, a débouché sur des crises sociales avec des mécontentements très fort et très divers dans les sociétés, et in fine des crises politiques où les gouvernements en place n'ont pas donné les réponses pour sortir de la situation, qui fait que tous ces partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont largement en réalité, critiqués, voire rejetés par une partie grandissante de la population. Et un fait qui est très important en Amérique latine, c'est de comprendre qu'il y a une grande transformation sociologique dans cette région, avec dans les années 2000 l'émergence de fortes classes moyennes qui se retrouvent aujourd'hui très critique par rapport à la représentation politique, quelle qu'elle soit. Ceux qui ont été au pouvoir sont aujourd'hui, si vous voulez, critiqués, quelle que soit leur affinité politique. Et ça ouvre des scénarios politiques qui sont toujours incertains, indéterminés, et dont, où la possibilité d'avoir des régimes de type autoritaire est tout à fait un des cas de figure possibles dans ces pays-là.
Et Christophe Ventura, est-ce qu'on n'assiste pas également, c'est ce qui nous amène d'ailleurs doucement vers Cuba, à la fin des grandes figures tutélaires, les grandes figures de pouvoir, je pense à Lula effectivement, mais à Chavez, on sait que Maduro a beaucoup de mal après lui, et également d'une certaine façon à Castro, même si on le sait bien, la situation est bien différente, mais est-ce qu'on est un peu dans la fin de ces grandes figures de pouvoir aussi?
On est dans la fin de cette vague, qui a été quand même assez entre guillemets exceptionnelle, parce que jamais la région avait connu dans ces années-là une telle génération de dirigeants qui en plus avaient beaucoup d'affinités politiques, idéologiques, personnelles, etc. Donc c'était quand même très très singulier. Est-ce que ça pouvait d'ailleurs durer? C'est une question qui est posée. En tout cas, c'est la fin de ça. Et effectivement, on voit bien aujourd'hui que peut-être un des problèmes de l'Amérique latine, c'est justement qu'elle se retrouve un peu sans leadership en réalité, qui s'imposerait ou qui pourrait être moteur dans un projet, encore une fois, quel qu'il soit d'orientation politique ou d'une autre. Mais effectivement, dans ce moment, aujourd'hui, il n'y a plus ce leadership en Amérique latine quoi contribuer effectivement à peser dans cette situation de difficulté.
Et ce qui nous emmène doucement à Cuba, en fait, parce qu'on sait bien encore une fois que la situation évidemment est bien différente. Raúl Castro ne sort pas de la photo, on le sait, mais au fond, est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe là est une sorte de parenthèse avant que Cuba, comme les autres d'ailleurs, ne soit touché par la même chose que ce que vous expliquiez à l'instant pour les voisins plus au sud?
Alors écoutez, bon, Cuba a toujours été un cas assez unique dans la géopolitique régionale latino-américaine. Ce qui est en train de se passer, on entend beaucoup que voilà, c'est une transition, et on entend beaucoup des mots comme ça, comme transition ou changement. Bon, je crois qu'il faut être prudent. Hein. Ce qui se passe à Cuba, c'est d'ailleurs c'est comme ça que le présente le gouvernement cubain aussi. C'est d'ailleurs une forme de continuité maîtrisée, je veux dire aujourd'hui. C'est un pouvoir collégial qui se met en place avec justement la figure tutélaire locale, Raúl Castro, qui ne quitte pas du tout l'avant-scène. Hein. Mais on est plus dans quelque chose comme ça. Monsieur Díaz-Canel va être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, donc possiblement pour 10 ans. Ils ont une feuille de route très claire, c'est la modernisation de l'économie cubaine et puis sa libéralisation progressive pour accueillir des capitaux internationaux essentiellement. À Cuba, ils sont très très observateurs des évolutions de la région. Il y a une chose qui est très claire à Cuba, c'est que l'île et le gouvernement pourra négocier, s'assouplir sur beaucoup de choses, peut-être en fonction de sa relation, son évolution avec les États-Unis. Mais il y a une chose que le gouvernement cubain ne devrait pas mettre de côté, c'est le contrôle politique des changements dans le pays. Et de ce point de vue-là, je crois qu'ils sont en position de, disons aujourd'hui, de centralité. Ils sont pas menacés par des par quelque chose qui remettra en cause ça aujourd'hui.
Mais il y a des inconnus, comme...
continuer son chemin.
Mais il y a des inconnus, Christophe Ventura, quand même, dans cette nouvelle présidence Miguel Díaz-Canel. Il y a des choses qu'on peut attendre de lui. Est-ce qu'il peut surprendre ou est-ce qu'on sait d'avance qu'il ne nous surprendra pas de toute façon?
C'est-à-dire, c'est toujours un nouveau dirigeant progressivement imprime, son mandat et son pouvoir. Et de ce point de vue-là, je pense que Díaz-Canel écrira des choses originales à Cuba, lesquelles aujourd'hui on peut pas le dire. On sait quel est son programme. Son programme, encore une fois, c'est la libéralisation contrôlée de l'île. C'est d'essayer d'aplanir la tension avec les États-Unis. C'est de conserver l'unité du système de pouvoir cubain. C'est les trois objectifs qu'il a aujourd'hui. Lui est dans sa feuille de route. Ensuite, il est clair que il va aussi devoir être obligé, même, je dirais, d'accompagner cette espèce de, non pas de pluralisme politique qui s'installe à Cuba, pas du tout, mais en revanche l'existence de poches d'expressions un peu dissonantes, d'expressions plus libres à Cuba, parce que par ailleurs c'est indissociable d'une ouverture économique et ça on peut être sûr d'une chose, c'est que plus ce gouvernement va libéraliser ou ouvrir l'économie cubaine, et plus la courbe politique va aller vers le haut et vers l'ouverture. C'est un phénomène qui est incontournable, y compris à Cuba.
C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer, au final, que tant que Raúl Castro est là, effectivement, mais après tout, c'est un très vieux monsieur, les choses ne bougent pas tellement, mais on est dans cette espèce de phase de transition dont vous parliez, qui prépare un après à Cuba, qui peut-être ne ressemblera pas au Cuba qu'on connaît maintenant depuis 60 ans?
Ça dépendra des conditions dans lesquelles toutes ces réformes vont être menées. Et ce qui va être déterminant pour l'avenir de Cuba, c'est la relation aux États-Unis. Plus la relation s'assouplira et plus le scénario que vous évoquez pourra avoir le jour, plus les relations avec les États-Unis seront tendues et se refermeront, et plus Cuba restera ou évoluera de manière beaucoup moins rapide.
Voilà, et que pour l'instant, les relations avec les États-Unis, avec Donald Trump, elles sont fermées. On est très loin de la levée de l'embargo, on avance très très lentement sur, y compris les échanges économiques, non?
C'est-à-dire que Donald Trump a opéré un redurcissement, si vous voulez, des assouplissements qu'avait concédé Barack Obama avant lui, sur un ou deux points clés. Le premier, c'est le fait que Donald Trump a abrogé la loi des pieds mouillés, qui veut dire que pour les Cubains, la possibilité, s'ils arrivaient aux États-Unis, d'avoir une carte de résident et un statut particulier qui les protégeait. Aujourd'hui, les Cubains qui voudraient partir aux États-Unis, y arriveraient comme des clandestins. Donc, il y a ce premier problème-là pour les Cubains qui voudraient partir. Vous avez un deuxième problème à Cuba avec Trump, c'est qu'il a largement resserré les possibilités pour les Américains de voyager à Cuba, et donc ça fait autant de personnes qui vont tarir, si vous voulez, les espérances touristiques qu'avait l'île depuis 2 ou 3 ans, et qui vont, ça fait autant de devises qui vont rentrer en moins sur l'île, et donc la question économique, ça va la compliquer. Donc ça, c'est le deuxième point important. Puis le troisième, c'est le fait qu'avec l'étrange affaire des attaques acoustiques qui a fait que, disons, les deux tiers du personnel diplomatique américain à Cuba sont repartis aux États-Unis. Bah, les Cubains qui justement veulent avoir des visas pour aller aux États-Unis ne peuvent plus le faire. Donc ça pose tout un tas de problèmes au quotidien, y compris encore une fois dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une fluctuation des flux financiers entre Cuba et les États-Unis à travers les liens interfamiliaux, à travers le tourisme et les échanges et coopérations. Tout ça est en train de se refermer et pour Cuba, c'est un gros problème.
Merci beaucoup, Christophe Ventura. Vous pouvez retourner dans le métro dans lequel vous étiez coincé il y a 10 minutes de ça. Merci mille fois, chercheur à l'URUSS, spécialiste de l'Amérique latine. On va retourner à Cuba dans un instant, dans Un jour dans le monde. D'ailleurs, ce sera avec Olivier Poujade qui nous y attend. À tout de suite.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Ce sera donc la suite d'Un jour dans le monde. Vous verrez ce qui reste de l'un des fleurons de la révolution, l'éducation, qui reste un pilier à Cuba. Mais pour qui, pour quoi faire? On a beau avoir des diplômes, il faut quand même trouver du boulot derrière, et c'est ça qui devient très très compliqué. Le Brésil aussi à suivre. Florence Paracolos nous y ramène également avec une vidéo étonnante de Vincent Cassel. On parle de corruption en Bulgarie également. Ce sera sous les radars. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter en Allemagne avec des rappeurs, en Israël avec un secret de famille avoué pour les 70 ans de la création du pays. Étienne Monin vous racontera ça. Et puis 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Et la Turquie qui avance ses élections alors?
Oui, au 24 juin, on se demandera pourquoi et surtout Erdogan peut-il les perdre?
Allez, le tour de la planète continue avec un détour par Glasgow et Franz Ferdinand sur France Inter. Lazy Boy. Lazy Boy et Franz Ferdinand sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence Paracolo sous les radars. Florence, vous nous emmenez d'abord en Bulgarie où la lutte anticorruption a pris un tour assez dérangeant.
L'affaire a fait la une depuis deux jours. Madame Ivancheva, maire d'un arrondissement de la capitale Sofia, arrêtée en plein centre-ville. Alors c'est la nouvelle unité spéciale mise en place pour lutter contre la corruption qui est à la manœuvre et pendant des heures, elle va donner à voir cette arrestation, laisser filmer cette femme debout en tailleur noir devant sa voiture, ses poignets menottés derrière le dos, des policiers encagoulés autour d'elle qui brandissent le carton de billets découvert dans son coffre. L'élu de Sofia est soupçonné d'avoir accepté des pots de vin dans un dossier immobilier. Cette affaire, évidemment, fait débat en Bulgarie. C'est le tout premier dossier, la toute première opération de cette nouvelle unité anticorruption créée en début d'année pour répondre aux pressions de l'Europe. La Bulgarie, pays le plus corrompu de l'Union, assure en ce moment sa présidente tournante.
Vous nous l'avez beaucoup vanté hier, donc maintenant il va falloir assumer. Voilà, nous partons pour Erevan en Arménie, où la rue s'échauffe contre le premier ministre Serge Sarkissian.
L'Arménie sans Serge. Serge Sarkissian, président sortant, il a fait deux mandats depuis 2008. Le voilà Premier ministre, élu par les députés avant-hier. C'est ça qui a fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue ces derniers jours. Sarkissian au pouvoir à vie, c'est leur crainte. Après un tour de passe-passe constitutionnel, c'est la tactique Poutine. Quand on ne peut pas se représenter une troisième fois, on fait du président un inaugurateur, pardon pour le néologisme, un inaugurateur de chrysanthème, et on devient son Premier ministre avec des pouvoirs renforcés, ce qui permet de garder la main et de se représenter aux élections suivantes. D'ailleurs, Vladimir Poutine ne s'y est pas trompé. Félicite le pro-russe Sarkissian pour sa nomination. Aujourd'hui, les manifestations continuent. Plusieurs dizaines de contestataires ont été arrêtés en tentant de bloquer le siège du gouvernement. L'opposition veut croire au début d'une révolution pacifique de velours.
Voilà, vous verrez que bientôt on appellera ça faire une Poutine. Au Brésil, Vincent Cassel tourne la police en dérision.
Vincent Cassel qui partage sa vie entre Rio et la France. Il incarne James Bond dans une vidéo produite par une web télé indépendante. 007 à la poursuite d'un terroriste sur un toit, jusqu'à l'arrivée de deux policiers qui ne comprennent absolument rien.
Policiais, Draco et un terroriste international.
Ih, tu fala brasileiro, caralho. AD1, pode voltar pro Ninho que a situação está sob controle.
Alors pendant 3 minutes, James Bond, Cassel va se débattre avec ces deux policiers idiots, vulgaires, bureaucrates et violents avant de se faire tuer par inadvertance par les policiers qui finiront par le dévaliser. La vidéo est un succès, vue par 1,5 million de personnes sur YouTube, sur une des chaînes les plus suivies du Brésil, avec ses productions drôles et subversives. Ce qu'elle dit de la police avec humour, c'est la synthèse de ce qu'on reproche aux forces de l'ordre au Brésil. La violence, la corruption, dénoncée par Marielle Franco, vous en souvenez, élue et militante de gauche, assassinée il y a un mois avec des balles de la police. Les autorités disent qu'elles ont été volées. L'enquête est au point mort. Amnesty International somme le Brésil d'élucider l'assassinat de Marielle Franco.
Et c'est tout, Florence.
Et c'est tout.
Et merci beaucoup. À demain.
France Inter.
Doha. Harare.
Jérusalem.
Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
Voilà, je vous l'avais promis, retour à Cuba. On en parlait il y a juste un instant, sans surprise. C'est Miguel Díaz-Canel, le nouvel homme fort de Cuba désormais, successeur de Raúl Castro. Il était seul candidat, avec pour charge donc, on a bien compris, de ne rien changer, ou presque, en tout cas pas, l'esprit de la révolution. Et bonsoir à vous, Olivier Poujade.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir, c'est vous Olivier qui nous faites vivre sur France Inter cette passation de pouvoir, cette cérémonie attendue. Olivier, ensemble, je voudrais qu'on aille un peu dans le fond de cette société cubaine. On a coutume de dire qu'il y a deux piliers, deux fiertés de la révolution cubaine qui perdurent aujourd'hui, la santé et l'éducation. Qu'est-ce qu'il en reste? Parlez-nous d'abord de la santé. Est-ce que aujourd'hui comme ailleurs, on soigne mieux à Cuba qu'ailleurs chez les voisins? Est-ce que c'est toujours vrai ça?
Eh bien, je vous répondrai oui et non, Fabienne, hein, parce que c'est vrai que tous les Cubains ont accès à l'intégralité des soins gratuitement, hein, que les statistiques de santé sont excellentes ici, avec par exemple un taux de mortalité infantile de 4 pour 1000, mais la qualité des soins se dégrade de plus en plus. Les médecins qui ne quittent pas le pays pour aller exercer ailleurs sont utilisés par l'État cubain comme un service d'exportation, en fait. Hein. 50 000 sont actuellement en mission un peu partout dans le monde, des compétences que Cuba échange contre du pétrole ou de l'argent. C'est d'ailleurs l'une des principales rentrées d'argent pour l'État. Ce qui fait la véritable fierté, en fait, de la médecine cubaine, c'est la recherche. Dans le domaine de la recherche, donc, il y a des biotechnologies, de gros investissements ont été réalisés par Fidel Castro il y a une trentaine d'années déjà, et les Cubains sont à la pointe dans ce secteur, Fabienne. Ils sont par exemple en train de développer actuellement un vaccin contre le sida et un médicament contre le cancer des poumons.
Alors, impressionnant. Un autre enjeu, Olivier, l'éducation. J'ai retenu un chiffre, c'est vous qui me l'avez donné, plus d'un million de Cubains surqualifiés qui n'ont pas trouvé d'emploi correspondant à la formation sous Castro. Aujourd'hui, on en est où de ce point de vue-là?
Alors ce qui saute aux yeux hein, lorsqu'on échange avec les Cubains, c'est vraiment leur niveau de langage et d'instruction. Et ça, c'est le fruit, c'est vrai, d'une combinaison entre le niveau d'enseignement qui existait déjà avant que la révolution n'éclate en 1959 et la volonté de Fidel Castro d'éduquer son peuple. Une réussite que même les opposants ici reconnaissent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faire des études poussées n'a plus vraiment d'intérêt, tout simplement parce que beaucoup de Cubains ne trouvent plus de travail à la hauteur de leurs qualifications, vous l'avez dit. Et qu'il leur est impossible d'exercer en profession libérale. Les avocats, les médecins, les architectes font tous partie ici d'entreprises nationales et ils sont très mal payés. Du coup, ce n'est pas très motivant. Et petit à petit, depuis 60 ans, eh bien, le niveau baisse lentement, mais sûrement, ce qui finit par poser un certain nombre de problèmes.
Eh bien, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble, Olivier. C'est votre reportage, vous l'avez réalisé, avec Gilles Gallinaro.
C'est un des trésors de l'île, un peuple instruit, un taux d'alphabétisation qui flirte avec les 100%, supérieur à celui de la France. Tous les Cubains ou presque ont fait des études, parfois longues.
Mais en français, c'est pas parfait. Mais
Béatrice
c'est
parle quatre langues. Elle sourit tous les jours aux touristes dans la vieille ville de La Havane.
Je me sens heureuse, vraiment heureuse.
Son travail, essayer de les convaincre de faire un tour de calèche dans le quartier.
Je fais le bac. Après, je suis allée étudier différentes langues, comme par exemple l'anglais d'abord, le français et un petit peu italien. Et j'ai trouvé ce travail-ci il y a 11 ans. C'est très difficile, en fait. C'est compliqué. On doit payer tout un convertible, par exemple, et nos salaires sont en CUP. Ce n'est pas la même monnaie.
Béatrice gagne l'équivalent de 10 euros par mois. La monnaie nationale a 25 fois moins de valeur que le peso convertible et la vie est aussi chère qu'en France. À Cuba, faire des études ne rapporte pas grand-chose, devenir enseignant non plus. C'est pourtant ce que rêve de faire Dailin. Elle a 22 ans.
Je suis étudiante à l'université pour être professeur d'art. Dans n'importe quel endroit du monde, être professeur, c'est un métier très important. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Et je crois que c'est un avantage que nous avons. Nous, les jeunes Cubains, ça ne sert à rien d'être riche, d'être d'une classe aisée. Un peuple instruit, c'est un peuple totalement développé.
Mais pour développer les cerveaux cubains, il faut assurer aux enseignants un niveau de vie minimum. La cause révolutionnaire ne suffit plus. D'autres métiers comme chauffeur de taxi sont aujourd'hui plus rémunérateurs. C'est ce qu'observe l'opposant cubain Manuel Cuesta, fondateur du parti de l'Arc progressiste, financé par les États-Unis.
La première chose, c'est que les professeurs ne sont pas satisfaits des salaires que leur paye le gouvernement. Beaucoup de professeurs se sont tournés vers d'autres professions mieux rémunérées et ça a fragilisé le système. Former un prof ne se fait pas du jour au lendemain. L'éducation a un impact sur la société. Elle est moins forte aujourd'hui et en plus, la société cubaine n'a plus les moyens aujourd'hui d'offrir du travail à ses étudiants. Beaucoup d'enfants disent à leurs parents, quand ils leur demandent ce qu'ils veulent faire plus tard, « Je veux être musicien parce qu'un musicien a plus d'argent qu'un ingénieur ou un architecte. »
L'âge d'or de l'éducation cubaine semble révolu dans les années 60 lorsque Fidel Castro lance de larges programmes d'alphabétisation et d'insertion scolaire dans toutes les couches de la société. Il s'appuie sur un corps enseignant d'élite extrêmement bien formé, l'un des meilleurs d'Amérique latine. Mais les vagues successives d'émigration dans les années 70, 80, 90 vident le pays de ses cerveaux.
Je suis là pour aider ce niveau, de garantir ce niveau.
Antonio est franco-cubain, professeur en faculté. Il vit en France et participe ici à un échange universitaire. Les enseignants cubains avec qui il travaille sont de plus en plus jeunes, dit-il, et sans expérience. Ils n'ont pas eu le temps de bénéficier du savoir de leurs aînés qui ont préféré quitter le pays.
Dans des autres métiers, on peut improviser avec la jeunesse. Dans l'enseignement, il faut l'accumulation des savoirs. Tu ne peux pas mettre devant une trentaine d'élèves un jeune qui vient de finir il y a 2 ans. Il connaît que dalle. Donc, même s'ils sont très compétents, même s'ils sont des flèches, l'accumulation, la transmission de savoir s'est cassée et on n'est pas prêt de la remettre en marche. Malheureusement, il y a déjà 60 ans de fuite d'intelligence. Et quand tu vois les classements des universités latino-américaines, il n'y a pas une seule université cubaine.
Un professeur d'université cubain ne gagne aujourd'hui pas plus de 30 euros par mois. Sans valorisation des salaires, difficile de retenir les enseignants. Ce sera l'un des plus grands défis de Miguel Díaz-Canel pour éviter que l'un des piliers de la révolution ne s'effondre.
Allez, comment ne pas finir sur cette musique? Est-ce qu'on n'est pas directement à Cuba? Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier Poujade. Merci à Gilles Gallinaro aussi pour le reportage. Vos reportages, Gilles et Olivier, vos photos, vidéos, tout ça est à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Et rentrez bien.
Power Hit Radio. BBC News. Al Jazeera. CBS Morning News. France Inter. Public Broadcasting. Le 18/20. Un jour dans le monde.
La carte blanche des correspondants de France Inter tous les jeudis en Allemagne et en Israël. Ce soir, on va commencer par ceux qui fêtent un anniversaire, une commémoration aujourd'hui. Bonsoir Israël. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Étienne, Israël fête aujourd'hui ses 70 ans, les 70 ans de la création de l'État, et le pays se confronte à la part d'ombre de son histoire. C'est ce que vous voulez nous raconter. Ce dont vous allez nous parler, c'est un secret de famille, en fait, comme un secret inavouable.
Oui, c'est une histoire qui a mis donc presque 70 ans à sortir. Elle est révélée par un réalisateur de documentaire. Elle a choqué le pays. Le pouvoir politique s'en est même emparé.
Welcome back to the rundown. And here in Israel, the difficult.
On est là sur I24 News, la chaîne de Patrick Drahi. En anglais, le présentateur parle d'une blessure toujours ouverte. Le sujet, c'est l'assimilation des Juifs d'Afrique du Nord par les pères fondateurs venus d'Europe. C'est une histoire de racisme entre Juifs, entre Israéliens, qui prend corps dans les années 50 quand l'agence juive démarche les séfarades du Maroc pour peupler Israël. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est la mise sur pied d'une politique discriminatoire, l'exploitation d'une partie fragile de la population par une élite, l'utilisation des séfarades au profit du projet Ashkenaz. Cette histoire est racontée donc par David Derry. Il appartient à une famille qui a subi cette politique discriminatoire. Il a étayé son reportage avec des documents de l'agence juive. Il décrit une communauté mise sur la touche par l'administration de l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que ces juifs venus du Maroc ont été envoyés dans les communautés arides du sud pour développer le pays et pour assurer la sécurité. Ça s'est fait sans consentement et le réalisateur David Derry dit que ça a été entouré par le déni.
It was like telling them...
C'était comme dire à tous ces gens, circulez, il n'y a rien à voir, avançons. Parce qu'on a construit un pays. La plupart des gens maintenant réalisent que les faits leur apportent une autre version. Et c'est l'histoire d'une discrimination systématique et institutionnelle.
Le documentaire s'appelle « The Ancestral Sin », le péché originaire, originel. David Derry en a fait une série pour la télévision israélienne et ça a créé un choc dans l'opinion publique. Ces tensions entre communautés existent depuis longtemps. Elles se sont en partie résorbées avec le changement des élites et la réappropriation de la culture mizrahi d'Afrique du Nord. Mais cette histoire fait remonter le non-dit à la surface. Le Premier ministre souhaite maintenant faciliter l'accès de la documentation sur cette époque.
Fascinant, Étienne Monin, merci beaucoup. Tant que je vous tiens, Étienne, comment ça se passe, les commémorations de ces 70 ans, sinon?
Eh bien, ça s'est bien passé, Fabienne, merci. Il y a eu les parades aériennes, c'est un classique. La journée dédiée au barbecue, ça aussi. L'armée craignait une action des Iraniens depuis la Syrie, mais rien ne s'est passé. Le Premier ministre s'est donc félicité des forces armées en disant que l'indépendance est être capable de se défendre. Et en face, c'est intéressant de voir les grands écarts dans cette société. David Grossman, l'écrivain de gauche, a dit au même moment qu'Israël, aujourd'hui, c'était une forteresse, mais pas encore une maison.
Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem. Pour un jour dans le monde. Merci beaucoup, Étienne. Nous partons pour l'Allemagne. Bonsoir, Berlin. Bonsoir, Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Cyril, ce soir, vous voulez nous parler d'un duo de rappeurs allemands qui font beaucoup parler d'eux alors qu'ils viennent de remporter la plus haute récompense musicale du pays.
Oui, c'était il y a quelques jours en prime time à la télé allemande, la remise des Echo Awards, l'équivalent des victoires de la musique.
Der Echo Hip Hop Urban National geht an. Kollega und Farid Bang, jung, brutal, gut aussehen, drei.
Kollega et Farid Bang, deux rappeurs très à la mode en ce moment en Allemagne. Ils obtiennent donc le prix de l'album Hip-Hop Musique Urbaine pour leur disque intitulé « Jeune, brutal et beau gosse ». Meilleure vente de l'année 2017, on écoute un extrait.
Hör mich im Pferdefeld flohen, in keine RTL-Show. Was wir an Schutzgeld sparen, werden wir beide an Schmerzensgeld los. Ich verwende den Gürtel, wenn ich den Rapper erwürge. Die einzige Frauenbewegung, die ich respektiere, ist Burke. Yeah. Komm mit Benzin in ein Viertel. Yeah. Ich schick die Note kochen. Mhm. Sie bläst den Russen Rocke bei diesem Muskelprotz. Wir sind im Gangbang-Film. Yeah. Ich fick ne Rapperin. Okay. Weil ich ihn mit einer Bitch verwechsel, ficke ich diese Rapperin. No Swag, keine Rolex, keine Arta Closing Hand.
La traduction mot à mot, mais pour résumer l'esprit général, on dira que Kolega et Farid Bang ont bien assimilé tous les clichés du gangsta rap, des textes souvent violents et sexistes, il faut bien le dire, avec parfois, et c'est là où est le problème principal, des relents d'antisémitisme. Il y a cette phrase qui a mis le feu aux poudres, « Mon corps est plus affûté que celui d'un prisonnier d'Auschwitz ». En Allemagne, ce genre d'allusion passe très mal, d'autant que le prix a été remis le jour même des commémorations de l'Holocauste en Israël.
Et résultat, Cyril, évidemment, la polémique n'en finit pas de prendre de l'ampleur.
Et bien déjà le soir même de la cérémonie, il y a eu un clash assez incroyable en direct à la télé entre les deux rappeurs et un chanteur de rock très connu en Allemagne, le leader des Totenhausen. Et depuis, l'affaire ne cesse de rebondir. Des anciens lauréats comme le pianiste Igor Levit ont décidé de rendre leur trophée. Des sponsors annoncent qu'ils se retirent. Un ministre a pris position en parlant d'une récompense honteuse. La maison de disques des rappeurs vient d'annoncer qu'elle cessait sa collaboration. Et l'industrie du disque parle désormais de revoir les critères d'attribution de ce prix.
Bah oui, parce qu'il faut... Il faut le dire, contrairement aux victoires de la musique, Cyril, les Echo Awards, ils sont basés pas sur la qualité artistique, mais même pas sur le contenu d'ailleurs, mais sur les chiffres de vente en fait, bêtement.
Ben oui, et que ça plaise ou non, Kolega et Farid Bang ont été les plus gros vendeurs de l'année dernière en Allemagne. Pourtant, l'Académie des Echo Awards dispose de sa propre commission d'éthique. Elle est censée examiner les cas problématiques et cette commission, elle s'est réunie. Il y a eu débat, mais la décision a été prise de récompenser malgré tout les deux rappeurs. Depuis, les Echo Awards sont donc sous le feu des critiques et le sujet est brûlant alors que l'Allemagne connaît en ce moment une recrudescence inquiétante de l'antisémitisme. Hier encore, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, elle a scandalisé le pays. À Berlin, en pleine rue, on y voit un jeune en frapper un autre à coups de ceinture parce que celui-ci porte une kippa.
Eh bien, formidable, ça donne tellement envie. En tout cas, ça boucle la boucle aussi avec ce que nous racontait précédemment Étienne Monin. Merci beaucoup Cyril Sauvageau, correspondant de France Inter à Berlin.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, c'est en Turquie que vous nous emmenez ce soir, où Erdogan vient d'annoncer des élections législatives et présidentielles anticipées.
Oui, avancé de 18 mois tout de même. Erdogan va enfin pouvoir profiter des nouveaux pouvoirs que le référendum constitutionnel, vous savez, remporté sur le fil il y a un an exactement, lui octroie. Plus de Premier ministre, un Parlement diminué, un président tout puissant. Autrement dit, la mue de la Turquie d'un régime parlementaire à un régime présidentiel sera entièrement achevée et Recep Tayyip Erdogan est bien régnera sans véritable contre-pouvoir depuis son palais blanc de 1000 pièces sur les hauteurs d'Ankara. Alors, quelques questions se posent tout de même. Pourquoi avancer si vite ces élections? Elles se tiendront le 24 juin. Mmh. Premier élément de réponse, les sondages, dont Erdogan est un consommateur compulsif, l'intervention à Afrin en Syrie a boosté sa popularité. Faire la guerre aux États-Unis, en Russie ou en Turquie, c'est donc toujours payant. Aujourd'hui, sa cote personnelle de popularité flirte avec les 40%, ce qui est loin de ce qui peut paraître peu d'ailleurs, pour un président qui au total doit l'emporter à la majorité absolue.
Oui, mais sauf que derrière lui, Anthony, ben il y a personne.
Oui, exactement. Le second dans ce même sondage, le leader du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, atteint péniblement 19%. De plus, ce même parti est incapable pour le moment d'aligner un présidentiable crédible face à lui. Alors il y a bien une femme qui est leader d'un nouveau parti nationaliste, elle s'appelle Meral Akşener, sauf que précisément son parti est si nouveau qu'il ne pourra probablement pas concourir pour les législatives. Quant aux Kurdes, eh bien ils sont assommés par la répression et l'incarcération de leur leader. Enfin, il y a la situation économique, la Turquie a priori va bien, son taux de croissance a été de 7% au trimestre dernier, ce qui est remarquable, sauf que les nuages s'amoncellent, la lire turque s'enfonce petit à petit face à l'euro et au dollar. Autrement dit, mieux valait ne pas trop attendre si Recep Tayyip Erdogan voulait profiter à plein de l'axiome des autocrates du moment, du style Poutine, Sisi ou encore Maduro. Vous votez, moi je l'emporte.
Et alors pendant ce temps, Anthony, par ailleurs, la répression continue.
Oui, d'abord et avant toute chose, le pays est en état d'urgence. C'est si vrai qu'aussitôt l'annonce de ces élections faites, le Parlement s'est mis au carré avec un empressement servile pour faire voter une énième prolongation de ce même état d'urgence. Je rappelle que le fameux état d'urgence a été voté suite au coup d'état raté de juillet 2016. 2016 et ses 250 morts. Deux ans plus tard, 100 000 fonctionnaires ont été mis à pied, des milliers d'entre eux croupissent en prison et c'est loin d'être fini. Le ministère turc de la Défense vient, il y a quelques jours, de faire savoir qu'il avait identifié 3 000 officiers supérieurs dont les liens avec le gouvernement, avec le mouvement Güleniste, vous savez, l'ennemi juré d'Erdogan, après avoir été son principal allié, seraient avérés. Je ne donne pas cher de leur peau. Enfin, il n'y a personne en Turquie pour dénoncer ces purges, ou si peu. 3000 journalistes ont perdu leur emploi depuis le coup d'État raté, et 153 croupissaient dans les prisons turques en janvier dernier, selon Reporters sans frontières.
Mais alors, c'est quand même la question à 1000 euros, mais enfin, je vous la pose tout de même. Est-ce qu'il peut les perdre, ces élections, Erdogan, ou pas?
Franchement, non. On sait pourtant que la société turque est beaucoup plus divisée qu'il n'y paraît sur le pouvoir d'Erdogan. Ça fait 15 ans qu'Erdogan se succède à lui-même. Et ce fameux référendum constitutionnel d'avril 2017, il y a un an donc, n'a été remporté qu'à 51-49%. On imagine bien que le score final a probablement été plus défavorable que cela. D'autant que les trois principales villes du pays ont, elles, voté massivement contre le renforcement des pouvoirs du nouveau sultan turc. L'espoir est donc à regarder là, parce que la Turquie s'urbanise très très vite.
Merci beaucoup Anthony Bélanger.